Merci d'être là pour accueillir, dans le cadre des accords qui unissent le Collège de France à l'Université de Trento, le professeur Maurizio Giangiulio, que j'accueille avec plaisir dans le cadre de ces échanges et dans le cadre de ma chaire. Et donc, Maurizio Giangiulio nous vient de l'Université de Trento, comme je le disais, une cité magnifique qui est située dans un amphithéâtre de montagne absolument splendide. Et il est professeur d'histoire grecque dans cette université. Et je souligne aussi d'emblée, parce que c'est quelque chose qui me semble important, que Maurizio Giangiulio est quelqu'un qui a assumé différentes responsabilités institutionnelles dans son université. Il a été président de département, responsable de toute sa faculté, comment dit-on chez vous ? Président, c'est ça, président de faculté et directeur de département, si je ne m'abuse. Donc des charges importantes.
Maintenant non plus.
D'accord, mais oui, d'accord, mais ce sont des engagements qui occupent beaucoup de temps et qui se font souvent au détriment de la recherche. Or, ce n'est pas le cas ici. Maurizio Giangiulio a conduit toute une série de projets de recherche sur l'historiographie grecque, sur les colonies dans le monde grec, et tout récemment, un projet en cours sur... Alors, je le cite en anglais, c'est d'ailleurs très intéressant de voir que pendant plusieurs années, les projets avaient un titre en italien, et puis maintenant, le dernier projet a un titre en anglais, ce qui est sans doute significatif de notre époque. Et c'est « Divination and Greek History, Reassessing Greek Oracular Responses ». Donc, en anglais. Alors, dans une abondante bibliographie, j'épinglerai de nombreux travaux sur la Grande Grèce et le monde colonial en général, avec un livre paru en 2021, justement intitulé « Magna Grecia, una storia mediterranea ». Et j'épinglerai aussi un ouvrage important qui a été publié en 2015, sous le titre « Démocratie grecque, Athènes, Sicilia, Magna Grecia ». Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est Maurizio Giangiulio que vous êtes venu écouter. Et je lui cède immédiatement la parole pour nous parler de l'Apollon de Métaponte. Giangiulio, Maurizio, pardon, c'est à toi.
Merci. Alors, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très reconnaissante au professeur du collège pour cette invitation. Et je remercie tout particulièrement Madame la professeure Vancien Pierre Delforge. C'est pour moi un grand honneur d'être ici. Je parlerai de l'ancienne Métaponte et plus précisément de la religion apollinienne de cette cité. Mais d'abord, j'aimerais rappeler le souvenir d'Honoré d'Albert, duc de Luynes, cet illustre Parisien qui a tant contribué à la connaissance de Métaponte. En 1828, il entreprit des fouilles au cœur de la cité et en tira un ouvrage abondamment pourvu de cartes et de dessins publiés à Paris après 5 ans. Tout récemment, Francesca Silvestrelli a réservé des analyses très intéressantes à l'activité du duc de Luynes à Métaponte et dans toute la Grande Grèce. Voilà le livre. Dès les premiers temps de la vie de Métaponte, l'espace sacré se situe au centre de la ville, à côté de l'Agora. Très rapidement, avant la fin du VIIe siècle, cet espace se remplit de pierres sans forme, argoilitoi, plantées dans le sol. Leur nombre dépassera vite la centaine. Certaines de ces pierres portent des inscriptions. Elles disent « J'appartiens à Apollon Lukeios, j'appartiens au Lukeios, je suis le Lukeios ». D'autres encore portent le nom de leur dédicant. Apollon était donc vénéré dans ce lieu central dès les premiers temps de la cité. L'investissement symbolique de la cité autour d'Apollon Lukeios paraît évident. La monumentalisation de l'espace sacré se poursuit peu à peu. Au milieu des pierres d'Apollon Lukeios, si on peut dire, les temples de la cité sont érigés au 6e et 5e siècle. Le temple B, celui du Lukeios, fut construit autour du milieu du 6e, mais précédé, semble-t-il, d'une structure en bois plus ancienne. On s'accorde désormais à penser que le temple A, celui auquel s'était intéressé le duc de Luynes, était dédié à Héra. Mais il faut dire qu'aucune documentation épigraphique explicite ne permet de l'affirmer avec sûreté. Quant à l'épiclèse de Dieu, sa dérivation à partir du nom du loup a été beaucoup discutée par les passés, mais elle est désormais communément admise. L'épithète se réfère à Apollon dans plusieurs tragédies d'Eschyle et de Sophocle. En outre, des cultes civiques du Lucéios se sont attestés dans le nord-est du Péloponnèse, en particulier à Sicyon et Argos. À Delphes également, ces cultes n'est pas absente. Et il existe des traces importantes du loup dans la mythologie et les pratiques votives du sanctuaire d'Apollon. Nous allons vite y revenir. Mais il faut avant tout signaler qu'Apollon Lucéios peut signifier à la fois Apollon tueur, mais aussi protecteur des loups, ou encore l'Apollon au loup, voire au loup tueur, ou même Apollon le loup tout court. De toute façon, il nous semble évident que ce sont les fonctions d'Apollon, et plus précisément ses fonctions dans la cité, qui implique la référence au loup et non l'inverse. Cherchons donc de faire parler les données relatives au sanctuaire comparable à celui de Métaponte, Sicyon et Argos en premier lieu. Dans les deux cas, Apollon Lucéios était situé au cœur de la cité, dans l'agora exactement, et l'agora d'Argos en particulier pouvait même être appelée Agora Lucéios, comme le dit Sophocle dans l'Électre. D'autre part, toute la cité d'Argos est appelée la cité du loup, et les monnaies qui sont frappées dès le 15e siècle le disent clairement. À Sicyon, la mythologie du sanctuaire invoquait les troupeaux des Sicyoniennes assiégés par les loups. Dans ce cas, le Lucéios était le tueur des loups et le protecteur des troupeaux, selon une métaphore qui était tout à fait commune dans les cités doriques et qui évoquait le groupe des jeunes guerriers destinés à perpétuer la communauté. À Argos, ces valeurs politiques sont documentées de manière éclatante. Le sanctuaire est le plus prestigieux de la cité, comme le dit Pausanias. Est-il clair qu'il s'agissait du lieu central où se cristallisait l'identité de la communauté politique? C'est là que se trouvait le feu sacré, maintenu constamment, et les foyers publics de la cité, qui ailleurs prenaient place, comme on le sait, dans le Prytané, en des lieux symboliques privilégiés de la communauté politique grecque, où les monuments emblématiques de l'auto-identification de la cité y étaient rassemblés. Et à Argos, c'était dans les sanctuaires du Lucéios qu'étaient conservées les inscriptions publiques et les traités internationaux. Il faut ajouter que ces sanctuaires étaient, à Argos, étaient étroitement reliés à la fondation même de l'organisation politique de la cité. Le fondateur mythique du temple, Danaos, avait invoqué le Lucéios et pris le pouvoir dans la cité. Lui qui était un marginal et qui venait d'ailleurs, comme un loup, justement. De sa fille s'est rainée la nouvelle dynastie royale et lui-même avait été inhumé dans l'agora, comme tout bon archégète. Centralité civique, bien sûr, mais aussi origine du pouvoir et de l'organisation collective. Des confirmations essentielles nous viennent de Delphes et du Parnasse. Le premier homme qui habitait dans les gorges de la montagne sacrée s'appelait Autolycos, le loup-garou. Et au temps des origines, Deucalion était arrivé au Parnasse et une fois le déluge terminé, guidé par les loups. À la cité qu'il fonde, il donne un homme qui évoque le loup, Lycorée. Elle en tenait d'elle-même comme ayant été fondée par des habitants de Lycorée. Selon plusieurs récits, le loup protégeait le sanctuaire. Certes, à Argos, le renouvellement du pouvoir dans la cité se place sous le signe du loup, alors qu'à Delphes, ce sont davantage les origines premières de la communauté des hommes qui y sont associées. Mais ne s'agirait-il pas de nuances différentes d'une unique et même notion? À Argos, en effet, le feu sacré du temple du Lucaios était le premier feu de l'humanité, apporté aux argents par Phoroné, le tout premier homme. Il est donc possible d'affirmer, je crois, qu'Apollon Lucaios entretenait un rapport très étroit avec les origines et le renouvellement de la vie en communauté. Nous pouvons donc supposer qu'un métaponte Lucaios placé au cœur de la cité appartenait à un imaginaire analogue à celui que l'on rencontre à Argos, à Sicyon et Delphes même. Ceci apparaît d'autant plus vraisemblable dans une colonie dont les origines étaient particulièrement complexes et où la reproduction cyclique de la vie collective constituait sans aucun doute une question tout à fait cruciale. Il convient d'ailleurs de rappeler que dans les périmètres signés par les Argoilitoi à Métaponte figurent des traces d'activités sacrificielles et d'armes en fragments. Alors, les pierres, les sacrifices, les offrandes votives, les armes, ne sont-ils pas les traces rituelles de l'intégration des jeunes guerriers dans la communauté coloniale des adultes? Il convient maintenant d'observer que cette relation cruciale qu'Apollon Lucaios entretient avec la cité est aussi le trait fondamental d'Apollon Delphinios et d'Apollon Carneios. Dans un cas comme dans l'autre, leur temple accueille un foyer public, en Crète, à Cyrène aussi. Et la ritualité place au premier plan la communauté, le renouvellement annuel de ses composantes. Il ne semblerait pas exagéré de soutenir que les fonctions du Lucaios sont en quelque sorte analogues à celles du Delphinios et du Carneios. Comme on le voit, on va terminer la partie consacrée à Apollon Lucaios à Métaponte. Comme on le voit, Apollon Lucaios de Métaponte est une composante à part entière de la religion apollinienne des Grecs. Ainsi, il ne s'agit pas d'un petit fragment d'une micro-histoire provinciale et coloniale. Certes, il y a des éléments qui appartiennent à une tradition métropolitaine, comme les Argoilitoi qui sont attestés en Achaïe, selon Pausanias. Autres éléments, d'autre part, traduisent le réseau des rapports spatiaux et culturels entre l'Achaïe, l'Argolide et Delphes, qui justement s'est trouvé juste en face, au-delà du golfe de Corinthe. Plus tard, à Métaponte, à la fin de l'âge archaïque, le moment vint où la culture religieuse de la cité changea. Dans les premières décennies du XVe siècle, une croyance s'affirma selon laquelle l'apparition prodigieuse dans la cité d'un individu exceptionnel appelé Aristeas de Proconèse aurait révélé une plus ancienne épiphanie d'Apollon. Dans le même temps, Aristeas aurait demandé aux habitants de la cité de bâtir une statue pour lui, ainsi qu'un autel et une autre statue pour le dieu. Ce qui s'est raconté quelques décennies plus tard est rappelé en ce temps par Hérodote. Voilà, vous avez le texte grec et la traduction un peu modifiée par Philippe le Grand. Je vous laisse un minute pour lire le texte. Je vais résumer rapidement, très rapidement le texte. C'est un passage assez complexe. Il y a d'abord le récit des Métapontins, l'apparition d'Aristéas, son ordre d'ériger un autel pour Apollon et une statue pour lui-même, et puis l'ancienne apparition de Dieu accompagnée par Aristéas, mais sous l'apparence d'un corbeau, enfin la consultation par la cité de l'oracle de Delphes. Enfin, c'est à ces moments qu'Hérodote prend la parole à la première personne et rapporte des détails topographiques qui laissent penser qu'il se serait rendu à Métaponte. Tout autour, il y a des lauriers, la statue de Dieu érigée. Bon. Deux points de ce texte doivent retenir notre attention tout de suite. Le premier concerne la chronologie. Le voyage d'Hérodote à Métaponte doit être en rapport avec sa permanence à Tourie, la colonie athénienne établie sur le site de Sybaris en 1444-43. Mais les monuments à Aristéas et Apollon doivent par conséquent être plus ancien, un peu plus ancien. Comme nous allons le voir, pour des raisons liées à Pythagore et au pythagorisme, on peut imaginer qu'il s'agit de la première moitié du XVe siècle. Le deuxième point concerne Apollon. Hérodote ne dit pas quelle aurait été l'identité de l'Apollon qui se serait manifesté au Métapontin. Peut-être qu'à ce sujet, n'aurait-il reçu que des renseignements vagues? Ou bien alors considérait-il comme une évidence la nature de l'Apollon en question? Quoi qu'il en soit, des raisons solides poussent à croire que l'Apollon d'Aristéas était un Apollon hyperboréen. Tout d'abord, une source ancien précise que, selon le même Aristéas, il serait arrivé à Métaponte depuis la terre des Hyperboréens. Cette information est indépendante d'Hérodote et remonte probablement au IVe siècle. C'est une source historiographique qui remonte peut-être à Théopompe. D'un autre côté, Hérodote avait trouvé dans l'épopée archaïque composé par Aristéas, c'est-à-dire les Arimaspées, des références aux Hyperboréens. Et il y avait lu qu'Aristéas avait accompli son voyage depuis l'extrême nord, possédé par Apollon, Phoibolamptos. En somme, pour Hérodote, Aristéas était intimement lié à Apollon et aux Hyperboréens. Il en était de même pour Pindare. Le lien Apollon, Aristéas, Hyperboréen est très fort dans Pindare. De plus, dans la mythologie de Delphes et de Délos, Apollon possédait une dimension hyperboréenne très prononcée depuis au moins le 7e siècle, comme en témoigne Alcée, qui connaît le mythe delphique de l'arrivée du dieu dans ses sanctuaires en provenance du pays des Hyperboréens. Et en ce qui concerne Délos, la céramique peinte des Cyclades évoque à la même époque, c'est-à-dire le 7e siècle, l'arrivée des vierges hyperboréennes. Et la mythologie insiste sur les offrandes que celles-ci avaient apportées à Délos du pays des Hyperboréens. Bref, il semble difficile de douter que l'Apollon d'Aristéas ne soit pas l'Apollon hyperboréen. En revenant à Métaponte, une découverte archéologique particulièrement importante, ainsi que d'autres données matérielles, permettent de constituer un dossier documentaire d'un très grand intérêt et de mettre en jeu, disons, la logique du concret. Disons immédiatement que l'espace sacré d'Aristéas et d'Apollone à Métaponte a été identifié sur place, grâce en particulier à l'archéologue italien Antonio de Siena. Je vous montre deux photos qui ne sont pas publiées, mais qui viennent de l'archive de la surintendance de la Basilicata. Vous voyez au centre de l'image une plateforme. Et ça, c'est très important. Ici, on voit mieux la plateforme en pierre. Et donc, nous sommes là dans l'agora de la cité, dans l'espace adjacent au grand sanctuaire des temples, et non loin du large édifice connu sous le nom très certainement inexact, mais désormais entré dans l'usage d'Ecclésiastérion. Il n'y a aucun doute sur l'identification de l'espace sacré. Grâce à une donnée décisive apportée par la présence, datable au XVe siècle, d'une énorme quantité, je cite Antonio de Siena, de feuilles de laurier en bronze. Et voilà. En effet, le texte historiographique dont nous avons précédemment parlé, qui remonte peut-être à Théopompe, mentionne un laurier en bronze érigé par les Métapontins au temple de la visite, épidémie hein, d'Aristéas. Ainsi, les feuilles devaient appartenir à un arbre en bronze que l'on peut imaginer situé devant l'autel. En même temps que les strates comprenant les feuilles de laurier en bronze, l'autel appartient à la période la plus ancienne de l'ensemble, c'est-à-dire les 15e siècle, ou mieux la première moitié. Au contraire, le reste du mur qui délimitait les trois côtés de l'espace sacré semble être datable à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pour la période pré-hellénistique, dans tout cas, nous pouvons admettre l'existence d'un espace sacré avec des limites, mais aucune trace d'un mur n'apparaît. En l'absence d'une publication scientifique des fouilles, il est impossible d'en dire davantage, malheureusement. À une dizaine de mètres au sud-ouest se trouve une fondation de forme rectangulaire, nous l'avons vu, d'environ 20 mètres carrés. Et sur son bord de sud était adossée une base de pierre, sans doute destinée à accueillir une stèle. Nous ne savons pas si la statue d'Aristéas, par exemple, s'est trouvée sur la fondation. Concernant la statue d'Apollon, son existence est confirmée par la documentation numismatique de Métaponte, qui apporte aussi des données sur la forme même du monument. Plusieurs monnaies à double relief, donc monnaies de l'âge classique du XVe siècle, reproduisent l'image d'une statue d'Apollon en pied, portant un arc dans la main gauche et un grand rameau de laurier dans la main droite. Un Apollon archer, donc, et surtout un Apollon d'Aphnéphoros, porteur du laurier. Ces monnaies seraient datées de 440-430, mais elles furent longtemps considérées comme plus anciennes, mais cela ne marche pas. Dans tous les cas, il y a des traits stylistiques de la statue représentée qui laisse supposer une datation un peu plus ancienne de l'image d'Apollon, c'est-à-dire de la statue d'Apollon représentée sur les monnaies du 440. Dans tout cas, une confirmation est apportée par un vase de céramique peinte daté de 430 environ. Un cratère à cloche à figure rouge sur lequel apparaît une statue d'Apollon tout à fait similaire. Le peintre, dit peintre de Pisticci, travaillait à cette époque précisément à Métaponte. À juste titre, Angelo Bottini a déjà observé que la monnaie en question et ses vases devaient se référer à la même statue, c'est-à-dire à celle située sur l'espace d'Aristea de l'Agora. En plus, on a voulu identifier la statue dans un buste de marbre du musée de Potenza, hein, qui appartient probablement à une statue haute de plus de 2 mètres, dont le bras gauche est abaissé, tandis que le bras droit se projetait peut-être vers l'avant. Mais comme on le voit, les inconnues sont nombreuses et les données chronologiques sont également un peu précises. On ne peut exclure que ce fragment remonte à la période 480-460, mais il peut être postérieur. Maintenant, il faut s'interroger sur les référents culturels de l'histoire de l'apparition d'Aristéas et sur les raisons pour lesquelles elle laissa une empreinte si durable sur la région de la cité. Pour apporter des réponses à ces questions, il semble nécessaire d'élargir un peu le cadre. Que l'histoire d'Aristéas soit en rapport avec le pythagorisme relève d'une conviction formulée déjà dans le XIXe siècle et partagé depuis par de nombreux auteurs. Mais à cet égard, les affirmations trop générales ne manquent pas et quelques précisions paraissent nécessaires. Tout d'abord, Pythagore est étroitement relié à Métaponte. On l'oublie trop souvent. Une fois parti de Crotone après la victoire sur Sybaris en 510, il s'installe à Métaponte, où, après quelques années, selon Aristocène, une vingtaine, il meurt, autour de 490 ou un peu avant. Durant cette période, Pythagore exerça une influence notable à Métaponte. On en trouve des échos considérables dans la tradition antique. Or, l'histoire épiphanique d'Aristéas est caractérisée par des traits apolloniens et hyperboréens qui concordent avec un aspect très significatif de la culture religieuse pythagoricienne. Lorsqu'Aristote esquisse la légende qui présentait Pythagore en thaumaturge et dans le même temps comme une entité mystérieuse capable de dominer le temps, l'espace et la mort, il rapporte que les crotoniates reconnaissaient en lui Apollon hyperboréen. Il existait aussi un acousma qui comparait Pythagore au dieu hyperboréen. Les acousmata désignaient les choses entendues, des prescriptions, autrement dites symboles, dont une grande partie datait d'avant le IVe siècle. En outre, toujours selon Aristote, l'un des secrets le mieux gardé des pythagoriciennes consistait à voir Pythagore comme un être intermédiaire entre les hommes et les dieux. On peut en conclure que l'apollinisme hyperboréen devait faire partie intégrante de la culture pythagoricienne. Par ailleurs, la tradition ancienne rattache tout d'abord à Métaponte Le Pythagore faiseur des prodiges, celui qui se dédouble, apparaît et disparaît. Et donc l'histoire d'Aristéas s'inscrit pleinement, je crois, dans ces contextes culturels. La venue d'Aristéas ne saurait toutefois se rapporter à la période durant laquelle Pythagore était encore vivant, puisqu'en quelque sorte, un avatar d'Apollon était déjà présent dans la cité. Il est probable, au contraire, qu'on ait travaillé sur la figure d'Aristéas au cours des générations qui ont suivi la mort de Pythagore. Les élèves, les pythagoriciens métapontaines, privés de leur inspirateur, auraient voulu s'inscrire dans un horizon hiératique et charismatique afin de consolider leur influence sur la cité, leur influence politique, bien sûr, sur la cité, mais par les biais de la dimension religieuse. Bien évidemment, ce qui est en jeu relève du rapport du pythagorisme avec la religion de la cité. Vaste programme, on dirait. Mais je me limite à les observations suivantes. À Métaponte, comme dans le cas de Crotone, ce rapport est marqué à la fois par l'adhésion et par une tension réformatrice. Sur le caractère inédit des faits qui accompagnaient l'épiphanie d'Aristéas paraît clair. Dans le même temps, cette innovation se trouve ancrée dans un contexte donné. D'un côté, on peut dire que tout ce qui regarde Aristéas à Métaponte met en jeu les mêmes structures d'un imaginaire mythico-religieux qui appartient à des autres récits répandus dans la Grande Grèce. Et d'un autre côté, l'épisode de l'Épiphanie manifeste une forte influence delphique. Concernant les histoires répandues dans la Grande Grèce, on rappellera naturellement les apparitions de Pythagore même, mais aussi celles de plusieurs personnages de Locre et de Croton qui sont au centre d'expériences extraordinaires, apparitions, disparitions, voyages statiques. Au moins l'un d'entre eux possède une consistance historique et entra immédiatement dans la tradition locale orale, c'est-à-dire le vainqueur olympique de Locre, Eutymos, dont les victoires remontent aux années 80 et 70 du 5e siècle. Et quant à Delphes, l'histoire d'Aristéas évoque la place centrale dans les sanctuaires à la fois des Hyperboréennes, mais aussi du laurier. En effet, cet arbre entretient une relation étroite avec l'activité divinatoire de la Pythie, mais aussi avec l'une des fêtes les plus importantes du sanctuaire, le Septerion, où est évoqué le transfert du laurier de la vallée de Tempé en Thessalie à Delphes. Enfin, les origines mythiques du sanctuaire delphique sont liés au laurier, le premier temple d'Apollon étant constitué de feuilles de laurier. L'Apollon d'Aristéas, en somme, paraît être autant d'Aphnéphoros qu'Hyperboréen. Or, la réception de l'histoire d'Aristéas à Métaponte dans le cadre du culte apollinien représente ainsi d'un côté une innovation des pratiques de la cité et de l'autre à la fois une reprise de traditions religieuses préexistantes, surtout en Grande Grèce, et une référence très marquée à Delphes et à son influence panhellénique. On peut dès lors comprendre que la cité et consulter l'oracle de Delphes que Apollon ait donné son approbation. Par conséquent, l'histoire épiphanique d'Aristéas a pu s'ancrer au cœur de la culture religieuse locale. sa réception de la part de la cité, sa place centrale dans la vie civique, son ouverture panhellénique en font une des facettes de la religion apollinienne de Métaponte et non pas l'expression d'une contestation. Il reste maintenant à tenter de tirer des conclusions en considérant la religion apollinienne de Métaponte entre tradition et innovation et dans un contexte qui est à la fois local et international. Comme on l'a déjà vu, l'histoire d'Aristéas recourt à des éléments d'une structure mythico-religieuse déjà en usage autant dans la Grande Grèce qu'à Delphi et Délos. Il existe aussi des connexions significatives entre le dieu d'Aristéas et la religion civique d'Apollon le Loup, au point qu'il n'est pas possible d'admettre que les développements liés à Aristéas représentent une rupture. En effet, l'imaginaire du loup jouait un rôle très important dans les origines de Delphes, nous l'avons vu. Et par ailleurs, la mythologie des origines de l'Apollon d'Hélène aussi se réfère autant aux hyperboréens qu'aux loups, dans la mesure où l'on racontait que les taux auraient rejoint Délos pour donner naissance à Apollon et à Artémis, métamorphosés en louves, accompagnés des loups, est en provenance du pays, des hyperboréens. Des fils reliaient ainsi l'Apollon d'Aristéas au Lyukéios de Métaponte, en passant pour retourner par Delphes et Délos. Nous avons vu ainsi que l'Apollon d'Aristéas s'inscrit dans un contexte culturel, à la fois local, régional et international. C'est principalement pour cette raison que nous n'acceptons pas l'interprétation proposée en Italie et acceptée aussi récemment aux États-Unis, selon laquelle l'histoire d'Aristéas se serait inscrite à l'intérieur d'un projet politique civique. Le récit et les transformations religieuses auxquelles celui-ci donna lieu témoigneraient en cette perspective, d'une affirmation sur le plan idéologique des composantes hostiles à la classe dominante. Ces composantes auraient poursuivi l'objectif de mettre en question l'importance du culte du Lukéios et d'entraîner une réorientation de la religion de la cité, davantage centrée sur un Apollon pour la première fois hyperboréenne et delphique, et sur la figure chamanique d'Aristéas. Dans ce sens, elle aurait voulu soustraire la vie religieuse civique aux anciens cultes aristocratiques et mettre en scène une sorte de véritable refondation de la cité menée par Aristéas. Nous percevons au contraire que la religion apollinienne de la cité se trouvait relié d'un côté au culte traditionnel du Lukéios et que, d'un autre côté, elle mettait en jeu des éléments culturels qui seraient accordés à d'autres expériences régionales et internationales. Des expériences inscrites dans l'espace de la Grande Grèce, du pythagorisme crotoniate jusqu'aux histoires d'athlètes charismatiques et d'individus extraordinaires aux traits héroïques, ou encore aux caractéristiques daphnéphoriques d'Apollon évidentes à Caulonia, colonie achéenne au sud de Croton. Expérience auxquelles pourraient s'ajouter les dimensions mythologiques et rituelles hyperboréennes et daphnéphoriques qu'on décèle à Delphes et à Délos. En somme, l'innovation s'enracinait dans les contextes existants. En d'autres termes, pour citer Eric Dodds, le développement religieux procède par agglomération et non par substitution. Si Métaponte, à travers le culte originaire du Lukéios, plaçait déjà la cohésion communautaire dans une dimension religieuse qui entremêlait le contexte local et l'échelle supralocale, la religion de la cité au 5e siècle s'enracine encore plus précisément à l'intersection des échelles locales, régionales et internationales. Avec Apollon, entre Grand-Grèce, Delphes et Délos, et avec Artémis. Comme le montre l'ancien épinicie de Bacchylide pour Alexidamos de Métaponte, entre l'Achaïe, l'Argolide, l'Arcadie et à nouveau Delphes. Nous nous trouvons dès lors face à divers processus culturels qui s'inscrivent dans l'espace de la mobilité méditerranéenne et dans les relations établies entre Métaponte et les sanctuaires internationaux. Les habitants de Métaponte fréquentaient Delphes, nous le savons. La cité avait dédié à Apollon, peut-être précisément au 5e siècle, une moisson d'or, c'est-à-dire une offrande vraiment extraordinaire. Des représentants de l'élite, nous connaissons un certain Phaulos, y consacraient des offrandes votives à Delphes. Et les athlètes de la cité revenaient victorieux des Jeux Pythiques. Et l'un d'entre eux demanda en épinicie à Bacchylide. Les habitants de Métaponte fréquentaient aussi Délos. Parmi eux, un pythagoricien, apparemment dans la première moitié du XVe siècle, du nom de Parménisque. Son trajet entre l'Ébadé, où la consultation de l'oracle prévoyait un voyage rituel dans l'au-delà, et les oracles de Delphes et Délos. Son trajet synthétise de manière exemplaire le réseau de relations dans lequel s'inscrivait la religion de Métaponte à l'époque. Au terme de cette discussion, nous pouvons dire que nous avons voulu donner seulement une idée de la complexité d'un culte divin dans une cité coloniale. Dans le même temps, nous avons exploré les fils qui relient l'innovation religieuse à des contextes aux dimensions plus amples. D'un côté, le contexte régional de la Grande-Grèce et de l'autre côté, les réseaux des traditions religieuses apolliniennes, des sanctuaires internationaux et panhelléniques. La micro-histoire coloniale, alors, se révèle comme un aspect de la mobilité et des connexions dans l'espace méditerranéen. Les cultes d'Apollon à Métaponte doivent ainsi être entendus dans ces contextes. Enfin, nous voudrions être clairs sur ce point. Nous avons établi des rapports et avons cherché à interpréter les données, sans toutefois élaborer des systèmes. Il vaut mieux ne pas oublier que, comme l'on a dit, au pays d'Apollon, nul n'est prophète. Merci pour votre attention.